Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Mais vous fasse loisir, le club du vendredi qui vous propose des idées pour votre congé de fin de semaine. Et ce matin, en ces temps grisâtres, nous mettrons de la couleur dans nos vies en compagnie de l'excellent mensuel Marie-Claire, de la couleur dans notre déco, dans nos tenues avec la directrice des rédactions Catel Le Pouliquen et avec le designer Jean-Gabriel Cosse qui reviendra, ils reviendront tous les deux sur les couleurs qui nous font du bien et celles qui marqueront l'année 2022. Christine Appelé-Douel vous conseillera deux livres réconfortants à lire ce week-end. Notre chef Grégory Cohen partagera des conseils pour réussir un croque-monsieur. Viandard ou végétarien, il y en aura pour tous les goûts. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Une chronique philo très colorée.
Oui, on va se demander pourquoi est-ce qu'on a du mal à qualifier la couleur de votre suite, Ali, entre savoir si c'est beige, rosé,
vieux rose,
etc. Autrement dit, pourquoi est-ce que les couleurs ne sont pas les mêmes pour tout le monde ?
Bonjour Guillemette Audicino.
Bonjour Ali.
Votre chronique, c'est l'ami du vendredi, un personnage de fiction qui mérite toute notre amitié. Qui deviendra notre camarade cette semaine ?
Alors écoutez, c'est assez simple, vous n'avez qu'à traduire. En espagnol, ça veut dire émeraude.
Bonjour Maya Mazorette.
Salut Ali, bonne année.
Je suis obligé de la tutoyer pendant sa chronique, encore fois en 2022. Quel est le menu de ta chronique sexe en fin d'émission ?
Eh ben, avant de passer aux couleurs 2022, on revient sur les couleurs 2021, mais dans la pornographie. Et spoiler, c'est très très blanc.
Restez avec nous. Ça sera vers 10h52. N'hésitez pas à nous dire quelles sont les couleurs qui vous font du bien en ce moment au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Bonjour Grégory Cohen.
Bonjour Ali Ribéi.
Chef du futur père Joseph Harviel Malmaison en région parisienne. Vous nous proposerez ce matin plusieurs recettes de croque-monsieur maison. Hein.
Oui, on va partir d'un croque-monsieur, la base, l'emblème national des bistrots. Et puis on va décliner un petit peu en mettant d'autres choses à l'intérieur.
Alors avant ça, une question de Marie hein, qui nous demande comment réussir un poisson pané maison pour ses enfants.
Alors, bah Marie, c'est une bonne question en fait pour le poisson pané. Il y a un petit truc qu'il faut savoir. Donc, on va prendre du cabillaud ou de la sole, par exemple. Idéalement fraîche. Fraîche, ça veut dire évidemment de bonne qualité, mais qui sort aussi du réfrigérateur, donc qui soit froide. Ensuite, on va la sécher un petit peu avec un papier absorbant.
C'est très important. Ça,
et ça, c'est en fait ce qui va faire que la panure va tenir. Parce que si on conserve cette espèce de pellicule que le poisson a naturellement, eh ben la panure va se détacher et du coup on va rater son poisson pané. Une fois qu'on a séché son poisson, bah c'est relativement simple, Maya. On va mettre de la farine dans un bol, on va mettre de la panure dans un autre bol et un œuf battu. On démarre par la farine. La farine, elle va permettre justement à l'œuf d'accrocher. Et si l'œuf accroche, la panure va accrocher aussi. Donc je mets d'abord mon poisson dans la farine, ensuite dans l'œuf et ensuite dans la panure. Ensuite, une huile pas trop chaude parce qu'il faut que le poisson cuise à cœur. Et on retire lorsque la panure est dorée. Dorée, ça veut pas dire cramée. Et là, on a un très bon poisson pané, Marie.
Une panure maison ?
Panure maison, on récupère du vieux pain. On va le faire mixer. Ou alors même si on a envie de rajouter un peu de croustillant, on peut mettre des céréales. Et du coup, avoir une panure un petit peu différente.
On peut parfumer la panure également.
Hein. La panure, on peut mettre ce qu'on veut dedans. On peut mettre du paprika. On peut mettre des graines de chia, de sésame, de tournesol, de tout ce qu'on veut. Et puis, on va avoir après un goût un peu particulier, un peu comme on aime.
Guillemette.
On peut écraser des biscottes aussi.
Oui,
mais je me suis dit, mince, il manque ce truc. Moi, j'écrase des biscottes, j'avais peur que ce soit interdit.
Non, tu peux.
Merci.
Et vous pouvez poser vos questions cuisine à Grégory Cohen sur l'appli France Inter. Bonjour Christine Appelé-Douel.
Bonjour Ali.
Alias Lady Crumble dans certains milieux spécialisés. Chef de la rubrique.
Sache, hein.
Oui, mais vous saurez un jour. Lors de la dernière de Grand Main vous fasse.
Voilà.
Chef de la rubrique livre à Psychologie Magazine, co-autrice de la version poche de la revue Grand Main vous fasse, actuellement en librairie et publiée chez Pocket. Et on commence justement avec vous. Alors, Christine Appelé-Douel, pour notre plus grand bonheur de lecture, vous avez choisi le nouveau livre de l'américaine Louise Erdrich, Celui qui veille, qui a reçu le prix Pulitzer 2022, et c'est publié chez Albin Michel.
Oui, alors Louise Erdrich, c'est une de ces grandes figures, non seulement de la littérature amérindienne, dont elle est chef de file, mais de la littérature américaine tout court. Et elle a déjà publié de nombreux romans qui ont tous été traduits et publiés chez Albin Michel en français. Elle est née dans une réserve du Minnesota. Elle est elle-même amérindienne par sa mère. Son père était germano-américain et elle a grandi dans le Dakota du Nord, où se trouve justement, où prend place son nouveau livre, qui est vraiment une fresque très ambitieuse. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est l'histoire de son grand-père. Voilà. Elle raconte l'histoire de son grand-père que, bien entendu, elle a transposée. Alors, le héros il s'appelle Thomas. Tout se passe en 1953. La trame, c'est que le gouvernement fédéral, en 1953, a préparé une loi qui était dite de termination, ce qui est quand même une expression extrêmement... qui a été gardée d'ailleurs dans la traduction, qui indique exactement vers quoi va se diriger le problème. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agissait de mettre un coup d'arrêt aux accords qui avaient été passés avec les tribus amérindiennes, dans un but apparemment extrêmement bénéfique, c'est-à-dire permettre aux Amérindiens de s'intégrer complètement, de devenir des citoyens américains à part entière, etc. Sauf que derrière, qu'est-ce qui se cachait ? Il se cachait un désir de mettre la main sur les terres qui appartenaient aux tribus amérindiennes, comme d'habitude. Hein, c'était une espèce de tenue de politique depuis les années 1800 et même auparavant, et de les priver donc de leur particularisme et de les fondre dans la société américaine. Voilà. Et donc ce Thomas, le héros, qui est aussi président du conseil tribal, il est ouvrier mais il est également président du conseil tribal, il décide de se battre lorsqu'il découvre ce texte et d'aller porter la parole des Amérindiens à Washington. Alors on va le suivre tout au long de cette épopée, et dans le même temps, il se déroule une autre intrigue qui se rejoignent. Hein, c'est une espèce de tresse, et l'intrigue parallèlement, c'est celle de Pixie, une jeune femme de 16 ans, qui va partir à la recherche de sa sœur, qui a disparu. Elle va partir à Minneapolis et elle va tenter de retrouver sa sœur dont elle sait qu'elle a eu un bébé. Et donc, en dessous se déroule l'histoire de ces nombreuses femmes amérindiennes qui ont disparu, dont on n'a pas su ce qu'elles étaient devenues et qui ont disparu dans les grandes villes américaines. Voilà. Et c'est un livre, c'est un roman qui vous embarque. Vous suivez ces deux destinées qui sont à la fois tragiques, hein, et en même temps pleines d'espérance et pleines d'énergie. Et c'est, voilà, on commence. Et moi, je vous garantis que vous ne pourrez pas vous arrêter avant la fin de ce roman qui est quand même assez copieux, hein, plus de 500 pages, presque 600, et qui est remarquablement écrit. On sait que Louise Erdrich est une plume magnifique. Alors, il y a des moments très poétiques, des moments inspirés, comme celui du moment où Thomas, enfin, ça arrive à plusieurs reprises dans le livre, se met à parler avec les disparus. Il parle dans sa tête, il évoque les disparus. C'est vraiment très beau, la jeune fille, la description de ses sentiments. Enfin, c'est un très beau roman que je vous recommande vivement pour votre congé de fin de semaine, comme vous aimez à le dire. Je tiens au passage à saluer quand même le travail absolument remarquable de l'éditeur de cette collection magnifique d'Albin Michel qui s'appelle Terre d'Amérique, Francis Geffard. Tout le monde ne le connaît pas dans la profession, comme on dit, tout le monde le connaît, il est très très connu.
Un type merveilleux, paraît-il.
Mais c'est un type extraordinaire, c'est un homme remarquable et qui depuis 40 ans ne cesse, alors il est aussi fondateur, cofondateur du Festival Américain, qui se déroule tous les deux ans, et il a fait connaître cette nouvelle littérature américaine en France depuis 40 ans. C'est un type formidable.
Voilà. Guy Metodicino.
Ah ben, je n'avais pas encore même ouvert ou vu ce livre, mais alors là, franchement, là, j'ai envie de m'y plonger. Ça fait un bon week-end. Hein.
Ah oui, oui,
faut
oui,
pas
oui,
faire grand-chose autour, mais c'est bien.
Enfin, pour vous donner une idée, Colm McCann a quand même dit de ce livre que c'était un des plus beaux qu'il avait lu ces dernières années. quand même.
Celui qui veille de Louise Erdrich. C'est publié chez Albin Michel et c'est traduit de l'américain par Sarah Gursel. Seconde joie de lecture, votre bon vieux Robert Louis Stevenson.
Mon chéri.
C'est votre chéri, amoureux, le trafiquant d'épaves, ça fait rêver ça, le trafiquant d'épaves en poche dans la très belle collection Libretto.
Libretto, et c'est préfacé par Michel Lebris. Donc,
décédé récemment.
Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ce trafiquant d'épaves? D'abord, il faut que je vous dise qu'il est paru en 1892, c'est-à-dire tout juste deux années avant la mort de Stevenson, qui est mort à 44 ans, ce qui est quand même extrêmement jeune. Il a écrit ce livre avec son beau-fils, Lloyd Osborne, qui est le fils de sa femme, et sa femme rencontrée à un jet de pierre de Moret-sur-Loing. Je fais juste une petite allusion. Et ça se passe dans les îles Gilbert. Alors, les îles Gilbert se trouvent aux Marquises. Qu'est-ce qui se passe? Deux aventuriers, Dodd et Pinkerton, qui achètent à San Francisco, aux enchères, une épave qui se trouve quelque part dans le Pacifique, aux îles Marquises, je crois. Voilà. Ils sont persuadés qu'ils ont fait l'affaire du siècle et qu'ils vont gagner un argent fou parce qu'ils ont entendu dire que dans l'épave se trouvait une énorme cargaison d'opium. Ils vont aller sur place, ils se retrouvent face à l'épave, ils désossent l'épave et dedans, bah, pas grand-chose. Pas grand-chose, quelques barils. En fait, l'opium n'est pas là. Ils repartent. Et leur fortune, évidemment, ils lui disent au revoir. Et puis voilà qu'un jour, donc qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne sait. Et un jour, l'un d'entre eux entend parler de membres de l'équipage qui se trouveraient quelque part pas loin. Donc il va partir à la recherche de ces membres d'équipage pour tenter de savoir exactement ce qui s'est passé. Je peux vous dire là aussi que si vous commencez, alors je ne sais pas dans quel ordre vous allez prendre les livres que je vous conseille aujourd'hui, mais si vous commencez par Le trafiquant d'épaves, prévoyez de quoi manger, de quoi boire, de quoi vous reposer, parce que vous n'allez pas le lâcher. Vous n'allez pas le lâcher. Et d'ailleurs, je voudrais vous dire quand même que c'était un des livres préférés de Borges et de Henry James. C'est vous dire la qualité extraordinaire, la qualité littéraire et la qualité de suspense de ce livre merveilleux.
Guillemette.
De toute façon, alors j'ose pas dire que c'est mon chéri puisqu'il est déjà pris, mais moi je l'ai lu il y a très longtemps, ça me donne envie de le relire, mais effectivement c'est on pourrait presque dire, même si ce serait un peu vulgaire pour lui, que c'est un turn page en fait. C'est vraiment un livre d'aventure bourré de suspense.
Et pendant longtemps seul le premier tome était disponible. J'ai pleuré auprès des éditeurs pour voir le second, il n'arrivait pas, et finalement ça y est, on peut le lire en entier.
Le trafiquant d'épaves de Stevenson, c'est disponible en poche chez Libretto. 10h19, eh bien, il est l'heure de retrouver l'ami du vendredi de Guillemette Audicino.
France Inter.
Chouette, tu es Harry Potter.
Grand bien vous fasse.
Je suis Hermione Granger et...
Évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller.
Guillemette Audicino, qui mérite notre amitié cette semaine?
Alors, chère Ali, chères auditrices, chers auditeurs, j'avais envie d'attaquer ce merveilleux début d'année, je plaisante, avec du grand, du monumental, du romanesque, de la beauté féminine qui en met plein la vue. J'avais envie de vous présenter une amie qui me bouleverse par sa farouche liberté et son altruisme, Esmeralda. L'héroïne au cœur de Notre-Dame de Paris, le roman de Victor Hugo. Ou plutôt, la Esmeralda, comme l'écrit Hugo. Cette toute jeune bohémienne qui, dès les premières pages du livre, sidère la foule en dansant. Légère et joyeuse, elle ne sent pas le poids de la fatalité qui, déjà, la condamne. Elle ne sent pas le regard de folle convoitise de Claude Frollo, l'archidiacre qui n'aura de cesse de la harceler avec ce schéma binaire et éternel « Ou tu te donnes à moi, ou tu péris ». La divine brune, avec sa carnation au reflet doré, danse, tourne et tourbillonne dans sa robe bariolée sur un vieux tapis de Perse, jeté négligemment sous ses pieds, au milieu du cercle sombre que la foule a formé autour d'elle. Pendant un moment de fête païenne, c'est une jeune beauté de 16 ans qui vole la vedette à la cathédrale. Notre-Dame de Paris, c'est elle, la gitane sans entrave et sans papier. Hugo la décrit comme une surnaturelle créature, Non, Victor, si je peux me permettre. C'est au contraire une femme au comble du naturel, avec sa farandole de désirs et de secrets.
La belle qui coule, la belle qui nage, n'est vêtue que de ses secrets. Seul le soleil pourrait la dévoiler.
Est-ce toi qui invente les paroles?
Mais non, personne n'invente. Tout est trouvé d'avance. Je n'ai qu'à appeler mes souvenirs, ou bien mes ennuis et mes peines, et mes désirs.
Comme le rappelle Gina Lollobrigida dans l'adaptation de Notre-Dame de Paris de Jean Delannoy, une femme n'a qu'à convoquer ses souvenirs pour sidérer un public. Alors bien sûr, dans l'imaginaire collectif, Esmeralda est la femme convoitée. Par Frollo, par le soldat Phébus, et de manière plus chaste, par Quasimodo. Mais avant tout, elle est la jeune fille qui dit non, même si cela l'amènera à la potence. Et elle est aussi la bienveillante, qui aide son prochain envers et contre les dangers. Pierre Gringoire, le poète sans le sou qui a assisté à la fête des fous, et qui a suivi Esmeralda dans la cour des miracles, bon, un coupe-gorge hein, quand même, dans lequel il se retrouve en fâcheuse position, bah, qu'est-ce qu'elle fait Esmeralda à ce moment-là? Elle lui sauve la vie en le prenant pour mari. Mais attention, hein, un mariage blanc, elle ne se donne pas à lui. Quasimodo est condamné à 2 heures de pilori. Qui lui donne à boire en faisant preuve de compassion? Esmeralda. Pourtant amoureuse, bien naïvement, hein, de Phébus, qui est loin d'avoir la noblesse du personnage de l'adaptation de Walt Disney. Hein. Bah, d'abord, elle se refuse à ce capitaine. Bon, si elle savait qu'en plus, celui-ci a accepté en échange d'argent que Frollo les regarde faire l'amour. Bon, alors ça, c'est marrant, Disney a oublié ce point hein, du roman. Condamnée à mort pour sorcellerie, bah oui, hein, évidemment, hein, parce qu'elle est condamnée à mort pour sorcellerie, comme chaque fois qu'une femme est trop désirable. Et bah, Esmeralda, là encore, repousse Frollo, qui est prêt à l'épargner si elle se donne à lui.
Alors, j'ai l'impression, guillemets, que votre amie est l'une des grandes victimes de la littérature.
Oui et non, Ali. Esmeralda est la beauté dont tous veulent abuser. Mais qui se frotte à un cœur pur finit par s'y brûler. Je ne vous dis pas comment finissent Frollo et surtout le bouleversant Quasimodo si vous n'avez jamais lu le roman et que vous croyez au happy end de Disney. Mais même Phébus sera puni puisque Victor Hugo écrit avec humour « Phébus de Chaute-Père aussi fit une fin tragique, il se maria ». Quant à mon Esmeralda, elle contribua de manière posthume à un autre sauvetage. Alors que la cathédrale édifiée sur 2 siècles, mais très délabrée, était menacée d'être abattue, le triomphe du roman de Victor Hugo en 1831 lui évita la destruction et sa beauté fut restaurée. Comme quoi, le romantisme au féminin peut abattre des montagnes et il peut aussi reconstruire des cathédrales.
L'ami du vendredi de Guillemette Audicino a podcasté et a partagé sur l'appli France Inter. Dans un instant, de la couleur dans nos vies, dans notre déco et nos vêtements avec Catel Le Pouliquen de Marie-Claire et le designer Jean-Gabriel Cos. Tout au long de la semaine, l'émission a été préparée par Julia Macarez, Camille Poux-Gelaguier avec l'aide de Victorien Thomas. La réalisation a été signée David Leprince, la programmation musicale Valentine Chedebois. À la technique cette semaine, Clément Vuillet, c'était sa dernière avec nous. Il part pour de nouvelles aventures à France Inter. Et avec Élise Christophe, et on écoute Ray Charles, Unchain My Heart.
Unchain my heart. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Phone. Some fella tells me that you're not at home. So unchain my heart, oh please, please set me free. I'm under your spell, like a man in a trance. But I know darn well that I don't stand a chance. So unchain my heart,
let me go my way.
Unchain my heart.
Unchain my heart. Why lead me through a life of misery when you don't care a bag of beans for me? So unchain my heart, oh please, please set me free. Under your spell.
I'm under your spell.
Like a man in a trance.
Like a man in a trance.
Wow, you know darn well,
well
that I don't stand a chance.
I don't stand a chance.
So unchain my heart.
Unchain my heart.
Let me go my way.
Unchain my heart.
Unchain my heart.
Unchain my heart.
You bury me night and day.
Unchain my heart.
Why lead me through a life of misery when you don't care about a beat for me? So unchain my heart, please, please set me free.
Please set me free.
Oh, won't you set me free?
Please set me free.
Oh, won't set me
free. Ray Charles, enjoy my heart.
Ah, et même au niveau des couleurs, c'est impossible de se comprendre parce que vous, vous avez des couleurs qui viennent d'une autre galaxie, vous. Si, vous avez taupe.
Grand bien vous fasse.
Je sais ça, taupe, on n'a pas nous comme couleur, hein. Non, non, comme animal, oui.
Sur France Inter.
10h28, Grand-mère vous fasse loisir, et ce matin on s'intéresse aux couleurs dans notre vie quotidienne, notre décoration intérieure, nos vêtements. Bonjour Catel Le Pouliquen.
Bonjour Ali.
Directrice des rédactions de Marie-Claire, avec un numéro qui vient de sortir et qui célèbre la couleur, une Virginie Efira qui porte la couleur de l'année 2022.
Absolument, on lui a fait
vous
porter.
Vous la portez d'ailleurs,
je et Guillemette aussi. Guillemette la porte, à quelques nuances près, on est tous dans cette color thérapie que l'on vante dans ce numéro de Marie-Claire. C'est vrai qu'elle porte donc du violet, qui est la couleur que Pantone, le grand coloriste américain, a décrété couleur de l'année. C'est une couleur assez douce, et c'est surtout en effet une espèce d'illumination qui nous invite à une forme de joie. On a envie d'y croire en tout cas.
Bonjour Jean-Gabriel Causse.
Bonjour Ali Grévy.
Vous êtes designer, vous concevez des couleurs dans tous les univers, architecture, d'intérieur, textile, produits de grande consommation, et vous avez publié un petit livre indispensable chez J'ai lu, l'étonnant pouvoir des couleurs. Le violet, c'est la couleur de l'année 2022?
Oui, c'est la couleur que Pantone a lancée, le Veri-Peri, ça s'appelle.
Qui est Pantone? Rappelez en deux mots.
Alors, Pantone, c'est un nuancier, au départ. C'est un nuancier, donc... qui a été fait de façon très arbitraire, très mathématique. Les couleurs ont été choisies par... En fait, c'est un ordinateur. Entre les teintes, vous savez, il y a 2600 couleurs. Pour tous les coloristes, il manque énormément de couleurs dans le nuancier, mais c'est déjà pas mal. C'est les premiers à avoir vraiment fait autant de couleurs. Et depuis 22 ans exactement, chaque année, ils lancent la couleur de l'année. C'est de plus en plus suivi. C'est intéressant parce que les couleurs sont de plus en plus puissantes. L'année dernière, il y avait un jaune très fort, Illuminate Yellow. Là, cette année, on est sur le Veri-Peri, qui est un violet très sympa. C'est celui de le costume de Prince dans Purple Rain ou Joker, la veste de Joker. Donc c'est des couleurs très sympas.
Dans Batman.
Ouais, absolument.
Alors, comme le rappelle notre ami l'historien Michel Pastoureau, l'art, la peinture, la décoration, l'architecture, la publicité, nos produits de consommation, nos vêtements, nos voitures, tout est régi par le code non écrit de la couleur. Jean-Gabriel Causse, nous sommes influencés par les couleurs bien plus que nous le pensons. Il existe des dizaines d'études scientifiques qui montrent les influences psychiques et physiologiques des couleurs.
Plus que des dizaines, il y en a même des milliers. Incroyable. Et encore, et tous les jours, il y a de nouvelles études qui montrent à quel point la couleur nous influence. Moi, l'exemple que je préfère parmi tous, c'est le rose. C'est une couleur. Quand vous regardez un aplat de couleur rose, dans votre cerveau, vous illuminez plein de zones. On ne sait pas trop encore ce que ça veut dire, on est au début des neurosciences, mais quand vous regardez un aplat, enfin quand vous regardez des images d'enfants qui sourient, donc une image de bonheur, on se rend compte que vous activez à peu près 95% des mêmes zones de votre cerveau. C'est-à-dire que l'expression « voir la vie en rose » est scientifiquement prouvée. Et ça, c'est incroyable. Et pour chaque couleur, vous avez des choses comme ça, sur les couleurs comme le bleu ou le vert qui poussent, qui vraiment vous rendent beaucoup plus créatif. On parlait de lecture tout à l'heure. La couleur idéale pour lire, c'est le vert, par exemple. Quand vous êtes tout, il y a beaucoup de gens qui aiment aller lire dans un jardin public sur un banc. Pourquoi? Parce que c'est la couleur qui à la fois active de façon très caricaturale votre hémisphère droit et votre hémisphère gauche, donc vous êtes à la fois concentré et créatif, et vous aimez lire. Si vous lisez en bord de mer, avec du bleu, bah vous risquez de vous endormir au bout d'un quart d'heure. Dans un jardin public, vous lisez des heures et des heures, c'est la bonne couleur. Et pour toutes les couleurs, on a plein d'exemples comme ça.
J'ai bien fait de porter du rose donc ce matin.
Absolument.
Qu'a-t-elle le Poulikin ?
Il y a une forme de magie de la couleur, et vous parliez de peinture par exemple, et d'art en général. Je voudrais juste citer un court mot de Lacroix, le peintre de Lacroix, il parlait du don magique de la couleur. Et pourquoi est-ce que c'est si magique ? Parce que selon lui, la couleur ne s'adresse pas à notre intelligence, mais à notre sensibilité. Et donc après, on peut évidemment parler des émotions qu'elle suscite, de la joie, des émotions qui s'adressent à notre inconscient, qui s'adressent à notre mental aussi, et qui réactivent parfois des souvenirs très heureux, de manière parfois tout à fait consciente, mais aussi souvent très inconsciente. Et donc c'est en quelque sorte le plus court chemin vers la joie, vers la vie aussi, et c'est parfois, pour nous, en tout cas là en plein hiver, un acte de résistance.
Et c'est pour cela que ce mois-ci, dans votre mensuel, vous avez éprouvé la volonté de voir la vie en colorama dans le monde gris de la pandémie.
Exactement, c'est encore une fois une manière à notre échelle de résister. Alors ce sont des petits gestes, mais qui peuvent sans doute nous aider au quotidien. On a aussi donné la parole par exemple à une maquilleuse qui s'appelle Violette, qui est une sorte de, nous on l'a appelée la chamane du pigment, parce qu'elle revendique la couleur, aussi bien un trait d'eyeliner bleu, une bouche rouge, très rouge, qui donne de l'éclat. Elle dit que ces petits gestes ne sauvent pas le monde évidemment, mais peuvent contribuer à notre échelle, à éclairer notre quotidien et peut-être aussi celui de ceux qui nous regardent.
Alors j'aimerais citer Henri Matisse: en laissant la couleur nous remuer et toucher la profondeur de notre âme, elle nous émeut, elle nous met en mouvement et nous fait entrer dans la joie la plus pure. Laisser la couleur venir en nous, c'est se laisser emplir par la vie. Jean-Gabriel Cosse: laissons venir la couleur en décoration, hein. Pas toujours évident tout de même, parce qu'on a peur du faux pas. C'est l'une des principales raisons pour laquelle on est souvent tenté par le blanc. On fait rarement une faute de goût avec le blanc.
Eh bien si, justement, malheureusement, c'est...
Expliquez-nous.
C'est une faute de goût, le blanc, parce qu'en fait, les couleurs, on en a tous fondamentalement besoin. Et la bonne nouvelle que l'on a avec le Covid, s'il y a bien une bonne nouvelle, c'est que les gens qui sont confinés dans leur appartement blanc, au bout d'un moment, ils supportent plus le blanc. Des études démontrent que, de médecine du travail par exemple, que travailler dans un environnement blanc, c'est beaucoup plus de dépression, on est moins concentré, on s'ennuie, enfin le fameux burn-out. Donc c'est pas une bonne couleur. On a besoin fondamentalement de couleurs. Alors après, quand vous dites on a peur de la faute de goût, c'est parce qu'on se met dans le cerveau des autres, alors qu'il faut se mettre dans son propre cerveau. Vous parliez tout à l'heure d'émotions. Chacun a son parcours par rapport à la couleur. Il y a des couleurs qui vous font du bien par votre éducation, par vos expériences, et ces couleurs-là, il faut écouter votre cerveau, il va vous dire mais mets cette couleur, elle te fera du bien. Donc en fait, il faut s'écouter soi-même. Vous avez une petite voix intérieure, un petit ange gardien qui vous dit cette couleur vous va bien, et si une couleur vous va bien, eh bien vous rayonnerez dedans et ce sera beau chez vous.
Qu'a-t-elle le Poulikin ?
Oui, c'est aussi une manière de mettre de la fantaisie et de faire exprimer sa personnalité de manière un peu différente, parfois avec plus d'audace. Je pense par exemple, si on parle de mode par exemple, certains costumes un peu obligés, certaines par exemple figures un peu imposées, même s'il y en a moins aujourd'hui, mais enfin de la figure du par exemple du tailleur pour le vêtement de travail, eh bien peuvent être finalement twistées, adaptées à sa propre personnalité si on choisit de mettre un costume en couleur. Et donc c'est une façon aussi de témoigner de sa propre fantaisie et de jouer avec des codes qui peuvent parfois nous être imposés.
Et on a de la chance parce que la mode nous y pousse aujourd'hui. C'est-à-dire que il y a eu vraiment, la couleur est vraiment partie dans les années 2000. Il y avait vraiment, tout le monde était habillé en noir, et là regardez autour de nos studios, on est 8, il y a 7 personnes habillées en couleur. Donc la couleur est en train de revenir. Bon, c'est pas des couleurs très très vives, mais c'est déjà mieux, je vous assure qu'il y a 4-5 ans, on serait tous en gris ou en noir. Donc la couleur revient, et tant mieux.
Jean-Gabriel Cosse, pourquoi est-il important de varier les couleurs en décoration? Expliquez-nous.
Eh ben, ça c'est en fait, faut pas oublier que nous sommes des animaux un peu plus civilisés encore depuis pas longtemps. quand on vivait dans la nature, on vivait dans toutes les couleurs. Vous aviez le bleu du ciel, le vert des feuilles, etc. Et donc toutes ces couleurs, on en a besoin. Et ce qui fait qu'on a du mal aujourd'hui avec la couleur, enfin qu'on avait du mal, mais c'est en train de changer, c'est que quand vous avez un appartement blanc, vous vous dites je vais prendre une couleur. Allez, j'aime le bleu, je vais mettre un mur bleu. Et tout de suite, on se dit mais est-ce que je vais pas m'en lasser ? La réponse est oui. S'il n'y a qu'une couleur chez vous, vous allez vous en lasser. On a besoin, comme dans la nature, de retrouver toutes les couleurs. Regardez nos grands-parents. Il y avait la chambre bleue, la chambre verte, la chambre rouge, etc. Et si vous n'avez qu'une chambre bleue, forcément, ça n'ira pas. Donc, il ne faut pas une couleur, il faut toutes les couleurs, parce qu'on a besoin de toutes les couleurs.
Et comment faire si on habite un studio ou un petit appartement ?
Alors déjà, si ce n'est pas chez vous, vous pouvez jouer la couleur par les tapis, par les rideaux, par votre couette, les coussins, etc. Si vous pouvez repeindre, aujourd'hui, franchement, les couleurs, le prix de la peinture a vraiment baissé. Donc, ce n'est pas très compliqué de repeindre un mur derrière. Moi, je vous conseille vraiment et vous invite vraiment à mettre de la couleur. Ou au pire, si vous pouvez pas, sur votre fond d'écran d'ordinateur, changez-le régulièrement, vous allez voir. Vous avez l'impression de recommencer une nouvelle journée en changeant votre fond d'écran.
Quelles sont les couleurs les plus difficiles en décoration ? Intuitivement, je dirais peut-être le rouge.
Oui, alors, le rouge, c'est une couleur, c'est la plus belle des couleurs, la plus puissante des couleurs. Il suffit de peu de rouge dans une pièce pour donner le sentiment que la pièce est rouge. Si vous avez même juste une pièce blanche avec juste un bureau rouge, inconsciemment vous dites c'est une pièce rouge. Donc c'est une couleur à manier avec précaution, c'est une couleur qui peut vous empêcher de dormir. En même temps, dans une chambre à coucher, des études montrent que c'est la couleur qui vous donne le plus envie de la bagatelle. Donc ça peut être un somnifère naturel très efficace. Donc très bonne couleur dans une chambre à coucher. Mais il faut faire attention au rouge. Rouge, très très bonne couleur dans une cuisine. Ça vous ouvre l'appétit. Les restaurants qui repeignent leurs murs en rouge ont l'addition qui augmente. Parce que on a envie de reprendre un dessert derrière. On mange beaucoup plus dans un restaurant qui a du rouge.
Pourquoi le vert est souvent controversé en décoration ?
Controversé, je dirais pas. Enfin, il y avait Goethe qui aimait pas trop le vert, qui disait surtout pas de vert dans une chambre à coucher. Après, moi, je trouve que c'est une couleur formidable parce que c'est vraiment la couleur de l'équilibre.
Elle est exactement au milieu. En cuisine, notamment.
Alors dans une cuisine,
j'ai bien lu votre livre.
Oui, 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 tout à fait. Alors dans une cuisine, le vert. Ceux qui aiment la viande vont pas forcément aimer avoir une cuisine verte. Voilà. Après, quand vous êtes plutôt sur une cuisine légère, un peu plus bio, etc., le vert est plutôt sympa. La couleur la moins intéressante dans une cuisine, c'est le bleu, parce qu'aucun aliment n'est bleu. Donc, dans une cuisine bleue, on n'a pas forcément envie ni de cuisiner ni de manger.
Grégory Cohen.
Oui, c'est la couleur qui empêche d'ailleurs même de manger. Si on sert un plat avec du bleu à l'intérieur, naturellement, on va pas le manger. C'est la non-couleur en cuisine.
Ouais, il y a une belle étude de steak qui était coloré en bleu, et oui. Les personnes étaient absolument incapables
bien sûr,
de manger.
Bien sûr, mais d'ailleurs, la couleur induit le goût que tu vas avoir. Si tu montres quelque chose de vert en dessert, tu vas imaginer tout de suite avoir quelque chose de chlorophyllé ou alors à la menthe. Et si tu fais une espèce de petite disruption là-dessus en donnant un autre goût, tu vas perturber complètement les synapses gustatives.
Christina ?
Oui, il y a une chose intéressante, c'est que le goût des couleurs varie d'un pays à l'autre. Par exemple, vous parliez du vert. Le vert est, semble-t-il, la couleur préférée des Allemands, alors que c'est pas du tout une couleur préférée des Français qui préfèrent le bleu. Donc il y a quand même une diversité des goûts en ce qui concerne la couleur.
Le vert est associé aussi parfois à certaines superstitions, voire même à certains interdits. On pense
au théâtre, par exemple.
Et pour revenir au Pantone, nous c'est un jeu mensuel qu'on utilise à Marie-Claire comme tous les magazines évidemment. C'est grâce au Pantone qu'on choisit les couleurs, des logos, des accroches, des titres de couverture. Donc c'est effectivement un jeu extrêmement amusant. J'ajoute que la couleur est aussi souvent très politique. On n'en a pas encore parlé, mais pour parler du rouge par exemple, ça me fait penser au bonnet rouge. Il y a quelques années, évidemment, les gilets jaunes. Le violet, c'est aussi la couleur des luttes féministes. Donc, c'est vrai que ça contribue aussi à mettre ce champ de couleurs dans notre panorama. Et ça témoigne, encore une fois, de la vivacité. Vous parlez de la puissance et de la vie associée aux couleurs. Je pense que le combat politique s'en sert sans doute pour cette raison.
Et ce qui est intéressant sur la politique, c'est que c'est inversé. Vous parliez tout à l'heure d'influence culturelle. Aux États-Unis, le rouge, c'est la couleur des républicains qui sont plus à droite que le bleu. Donc, c'est l'inverse de ce qu'on a en France.
Écoutons Sandra qui nous a laissé une note vocale.
Bonjour à tout le monde. Eh bien pour moi, c'est le jaune qui me donne de l'énergie vitale, et ce depuis 40 ans. Ma maison est jaune, mes murs intérieurs sont jaunes, mon manteau est jaune, mes pulls sont jaunes, et puis tout ce qui est jaune me réjouit, tout simplement. Donc pour 2022, je vous laisse deviner, ce sera et ça restera le jaune.
Et pourtant, Jean-Gabriel Causse, le jaune est réputé difficile. C'est d'ailleurs la couleur franche la moins appréciée par les enfants et par les adultes. Michel Pastoureau le rappelle admirablement dans son livre consacré au jaune.
Absolument, c'est la couleur de Judas qui était habillé en jaune. Et puis il y a plein d'expressions autour du jaune qui sont plutôt négatives. Le jaune cocu, rire jaune. Etc.
Le jaune dans une entreprise qui est
un traître.
Un traître, exactement. Et un malheureusement, si les Juifs, pendant la Deuxième Guerre mondiale, portait une étoile jaune parce que c'était la couleur à détester. Donc, alors que bizarrement, c'est assez curieux parce que c'est une couleur extraordinaire. Comme disait madame, avoir du jaune chez soi, c'est avoir un soleil toute la journée. Donc, c'est une couleur formidable.
Vous la conseillez en décoration ?
Complètement. Moi, je trouve que.
Dans quelle pièce, par exemple ?
Dans des pièces plutôt sombres. Parce que ça va amener de la lumière, ça va amener un soleil. Et le jaune s'éclaire très, très bien. C'est-à-dire qu'en éclairage indirect, vous éclairez votre mur jaune et ça va vraiment amener de la chaleur. C'est la couleur du feu également. Et ça va vraiment. Réchauffer votre pièce, donc c'est une couleur formidable dans un salon.
Et dans la salle de bain ?
Salle de bain, moi je suis plutôt sur des couleurs comme du turquoise, enfin des couleurs qui rappellent les lagons, enfin qui amènent à l'eau. Voilà, moi je trouve que c'est des couleurs qui sont très sympas, sauf peut-être dans les salles de bain froides. Donc vous avez une maison de campagne où la salle de bain est assez froide, si vous allez sur ces couleurs froides, vous avez peut-être un peu moins envie d'y aller. Mais dans des petites salles de bain, avoir du turquoise c'est sympa, vous savez que vous avez votre petit lagon personnel dans votre appartement.
Passons à la chambre à coucher, écoutons l'anecdote savoureuse de Michel Pastoureau.
Il y a quelques mois, je suis allé à Zurich faire une conférence. On m'avait réservé une chambre dans un hôtel de grand luxe. Je n'ai découvert ma chambre que tard parce qu'on m'avait invité à dîner. Il était minuit et quand j'ai enlevé le dessus de lit, j'ai constaté que dessous, tout était noir. La housse de couette, la tête d'oreiller, le drap de dessous. Et j'ai eu un mouvement de recul. Je me suis dit, je ne peux pas coucher là-dedans, c'est pas possible. En même temps, j'ai un peu ri de moi-même, mais j'ai quand même enlevé la housse de couette, la tête d'oreiller et le drap de dessous. J'en ai fait une boule affreuse que je suis allé porter dans le couloir et j'ai dormi sur la laise et la soute d'oreiller. Coucher dans des draps noirs, pour moi, ça n'est pas possible. Nos parents et nos grands-parents n'auraient jamais fait ça. Nos contemporains le font peut-être, j'ai vu que des draps noirs se vendaient, donc j'ai raconté cette histoire dans mon journal chromatique, et puis j'en ai profité pour rappeler comment, au fil des siècles, la laiterie et toutes les étoffes qui touchaient le corps se devaient d'être blanches ou écrues, non teintes. Puis on est passé vers la fin du 19e, au début du 20e siècle, vers les teintes pastel. Et puis dans les années 60-70 du 20e siècle, à des couleurs plus vives. Et aujourd'hui, donc, à des draps noirs.
Christina, vous partagez l'effroi de Michel Pastoureau. Hein.
Oui, l'idée des draps noirs, c'est voilà, ça donne pas du tout envie de se mettre dans ce lit.
Jean-Gabriel Causse.
Alors que moi, j'adore les draps noirs.
Oui.
Là, c'est très culturel. C'est ça qui est intéressant, c'est que chacun a son propre ressenti par rapport aux couleurs. Donc, encore une fois, pour reprendre la question que vous disiez au tout début, la faute de goût, c'est de pas s'écouter. C'est-à-dire qu'une personne qui n'aime pas le noir être dans des draps noirs, ce sera terrible pour elle. Alors qu'une personne qui aime ça, qu'elle le fasse. Pas de faute de goût si on s'écoute.
Quelles sont les couleurs à la mode en décoration cette année ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que les couleurs vives reviennent très fort. Là, on est par exemple sur des fuchsias, dans les vêtements, on a vraiment des couleurs assez électriques qui sont très intéressantes. En déco, c'est pareil. En déco, qu'est-ce qu'on a ? On a
terracotta.
Beaucoup de couleurs automnales, mais assez fortes. On a des terracotta, des jaunes moutardes, un jaune moutarde qui est vraiment très très présent, et les blancs sont remplacés par des beiges ou des couleurs écrues. C'est-à-dire qu'on sort vraiment du blanc, on rehausse les tons, les couleurs foncées sont un tout petit peu moins foncées et un petit peu plus saturées. Donc on est en train de revenir vraiment à des couleurs relativement vives. On n'est pas encore aux années 80, mais par rapport aux années 2000, vraiment on remet de la couleur.
Qu'a-t-elle le
politique ? Oui, ça fait écho à ce qui se passe dans la mode, où pour le coup, peut-être la mode est déjà à l'étape, pour le coup, des années 80 et même des années 90. Il y a beaucoup de relectures de ces années-là et pour le coup, tout est permis, en fait, tout est autorisé. On joue vraiment avec les codes, y compris les codes dits vulgaires. On s'amuse beaucoup avec des couleurs extrêmement criardes. Je pense qu'en effet, il faut s'écouter. Je pense que le mauvais goût n'existe plus en mode, et c'est une très bonne nouvelle. Et le jeu des couleurs nous autorise vraiment à toutes les fantaisies.
D'ailleurs, les grands créateurs se sont tous amusés à associer les couleurs qui a priori n'allaient pas ensemble, le rose et le rouge. Mm-hmm. Certains l'ont fait, le bleu marine,
oui,
et le noir.
Saint Laurent l'a fait dès les années 70, effectivement, voilà, la croix, bien la croix, sûr,
est magnifique.
Donc montrez-moi ce qui est de mauvais goût et je vais vous montrer que ça peut être du bon goût.
Il n'y a aucun interdit en mode, c'est la grande règle.
Guillemette.
Ça me rassure un peu parce que le fait que les couleurs de la déco changent beaucoup, c'est un problème pour le portefeuille quand même, hein, parce que moi, quand tout d'un coup il faut avoir des coussins jaunes, je ne peux pas m'en empêcher, j'ai l'impression que c'est vital pour moi d'avoir des coussins jaunes. Un an après, c'est à mince, il faut des coussins verts. Donc je peux vous assurer que j'ai à peu près une 60aine de coussins à la maison, ça commence à devenir embêtant. En revanche, pour la mode, c'est chouette. Parce que ça permet de ressortir des fringues qu'on savait plus comment très bien mettre. Ça sortissait. J'aurais pas dû prendre ce verbe.
C'est une erreur
ça,
de goût.
Ça sortissait difficilement. Et là, en fait, maintenant, puisqu'on peut mettre toutes les couleurs ensemble et tenter des choses de mauvais goût, bon goût,
exactement,
eh bien, on peut ressortir. En fait, voilà, on peut ne pas dépenser d'argent avec de nouveaux achats.
Allez, il est temps de retrouver les réflexions philosophiques de Thibaut de Saint-Maurice sur notre sujet du jour.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'intello la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser, hein. Personne. Jamais.
Alors Thibaut, quand on en vient à parler des couleurs, ce qui vous intéresse, eh bien, c'est que les couleurs ne sont pas les mêmes pour tout le monde.
Oui Alice, c'est une expérience assez simple et on l'a fait déjà depuis le début de l'émission. Les couleurs ne sont pas des réalités objectives. Quand je vois le canapé gris, eh bien vous le voyez beige. Et quand vous le voyez kaki, eh bien moi je le vois taupe. Et je ne vous parle même pas des nuances infinies qu'on peut décrire. Bleu nuit, bleu roi, bleu profond, bleu ciel, bleu pétrole, bleu marine et jusqu'à l'infini et au-delà. Ocre, sienne, grège, pigeon, souris, canari, verre d'eau, verre bouteille, verre amande, verre jungle. Et puis vous pouvez continuer la liste et jouer chez vous ce week-end. Les couleurs sont des qualités secondes des choses. Ça veut dire qu'elles ne sont pas des propriétés objectives, donc, mais plutôt le résultat d'une interaction entre nos yeux, notre cerveau et une certaine longueur d'onde de la lumière. Voilà, ça c'est en gros pour l'explication physique. Et comme nous sommes tous différents, nos sensations sont différentes et dès lors nous avons besoin de toute la richesse du vocabulaire pour essayer de décrire la singularité d'une sensation. La connaissance sensible, c'est assurément une connaissance, mais une connaissance qui est relative à celui qui perçoit. Quand je décris ce que je vois, quand je décris les couleurs que je vois, eh bien j'en apprends finalement autant sur ce qui est vu que sur celui qui voit. Et ce qui est intéressant, c'est que cette relativité de la connaissance ouvre alors largement le champ de la signification symbolique de ces qualités secondes.
Évidemment, il y a une symbolique des couleurs.
Oui, exactement. Si les couleurs ne sont pas les mêmes pour tous, c'est aussi parce qu'elles ont des significations différentes et qu'elles sont donc des signes.
Le rouge est la couleur du sang, le rouge est la couleur des Indiens, c'est la couleur de la violence, hein ? Alors que le fléau de notre société, et tout le monde s'accorde à le dire, est la violence, ils vont te foutre des briques rouges. Mais le rouge est aussi la couleur du vin, mon Dieu. Le vin qui dit vin dit porte-vin.
Voilà, comme le remarque donc Benoît Poulvord dans cette arrivée près de chez vous, le rouge est la couleur signe de la violence et la couleur signe du vin. Et ce qui rend les choses un peu plus complexes mais aussi d'autant plus intéressantes, c'est que les couleurs en tant que ce sont des signes, sont porteuses donc de significations, on l'a déjà dit, construites par des cultures, des histoires, des résonances différentes. On se marie en blanc en Europe mais on se marie en rouge en Chine. Et au sein d'une même culture, le jaune dont on vient de parler par exemple peut signifier la richesse quand il tire vers le doré mais aussi l'envie ou la mélancolie quand il perd en intensité. Ces significations-là, encore, ne sont pas des qualités objectives des réalités auxquelles elles sont rattachées, ce sont des signes. Et ça ouvre le champ à une connaissance symbolique que l'on appelle la sémiologie. La sémiologie, c'est justement l'étude de tout ce qui fait signe, de tout ce qui est porteur d'un sens ajouté par une culture, une histoire, une époque, une mode ou des comportements. Ça revient à dire qu'il n'y a pas que les mots qui ont des significations, ou plutôt que toutes les réalités sociales ont leur langage. Pour notre Roland Barthes, notre grand sémiologue national, les fleurs, les couleurs, les aliments, les gestes, les sports, les voitures, les vêtements sont des signes et en tant que tels constituent autant de langages possibles et qui racontent tout plein d'histoires. C'est aussi pour ça donc que nous ne voyons pas tous les mêmes couleurs, parce qu'elles sont porteuses de significations différentes selon donc les cultures et les époques. Alors la prochaine fois, au lieu de nous disputer sur telle ou telle teinte ou telle nuance, profitons-en plutôt pour faire un peu de sémiologie en nous posant la question de quelle réalité cette couleur est-elle le signe ?
La chronique philo de Thibaut de Saint-Maurice à partager en podcast. Allez, après les nourritures de l'esprit, les nourritures terrestres avec Grégory Cohen. Mon cher Grégory Cohen, des recettes de croque-monsieur pour ce week-end?
Oui, alors une recette principale de croque-monsieur, et puis après on peut l'adapter comme on veut. Alors je dis mon croque-monsieur parce que en réalité ça peut faire polémique à chaque fois qu'on va parler d'une recette de croque-monsieur. Chacun va dire attends, non mais c'est pas ça la vraie recette de croque-monsieur. Attends, mais t'es sûr?
Moi je mets pas de béchamel, par exemple.
Ah, pas de béchamel, ah, je suis d'accord.
Il y a pas de béchamel, il y a avec de la béchamel, il y a pas de croque-monsieur du tout pour Maya non plus. Enfin bref, il y a plein de choses. Chacun sa recette. Moi, la mienne, elle est à la béchamel, elle se fait au four et à la poêle, mais vous pouvez évidemment l'adapter en fonction de votre équipement, en utilisant uniquement le four, ou alors uniquement la poêle, ou alors même votre fer à repasser, tiens, si vous avez ni poêle ni four, mais utilisez quand même du papier cuisson, ça risque de l'endommager sinon. Alors, le mien est avec du jambon. Vous pouvez le faire avec une tranche de saumon, vous pouvez même le faire forestier avec du des champignons de façon végétarienne, alors même avec un portobello au milieu, ou alors si vous voulez...
Portobello,
vous
mettre, ce sont les gros
champignons qu'on va couper, et ça va faire une tranche, un petit peu comme une tranche de viande. Pour réaliser mon croque-monsieur, on aura besoin de 4 tranches d'emmental, de 8 tranches de pain de mie. Alors là aussi, le choix est large, vous pouvez adapter selon vos goûts en variant le pain, avec du pain de campagne, du pain de seigle, du pain de graine, enfin bref, on est le pays du pain, donc lâchez-vous. 4 belles tranches de jambon blanc, 100 g d'emmental râpé, 40 g de beurre, 2 cuillères à café de moutarde forte. Et puis pour la béchamel, puisque le mien est à la béchamel, il nous faudra 90 g de beurre, 100 g de farine, 50 cl de lait, de la noix de muscade. Alors on va démarrer par la béchamel. C'est en fait le seul point qui est un petit peu touchy ou compliqué dans cette recette. C'est on va mettre à fondre dans une casserole le beurre, on va ajouter la farine, on va cuire tout doucement en remuant pendant environ 2 minutes, ça s'appelle faire un roux. Ensuite, on va verser le lait en plusieurs fois en n'arrêtant pas de mélanger. On va cuire jusqu'à obtenir une consistance épaisse et homogène. On râpe un peu de noix de muscade et c'est prêt. Bon, je disais que c'était un peu compliqué, mais en réalité, pas vraiment. Puis vient le temps du montage du croque-monsieur. On beurre une tranche, on la pose, une tranche de pain évidemment, on la pose dans une poêle pour la dorer, on la retire, on étale de la béchamel, une demi-tranche de jambon, une tranche d'emmental, l'autre demi-tranche de jambon. On tartine un petit peu de moutarde, on referme avec la dernière tranche de pain, on met de la béchamel, de l'emmental râpé dessus, puis on enfourne sur le grill pour obtenir un beau croustillant. On déguste avec une petite salade de mâche, avec une vinaigrette à l'échalote, coupée en petits triangles, mangée avec les doigts ou à la fourchette. Ce croustillant, ce fondant qu'il caractérise, la simplicité et le génie de ce sandwich, on fait de notre croque-monsieur un de nos emblèmes nationaux.
Merci Grégory Cohen, et on peut retrouver votre recette de croque-monsieur sur votre compte Instagram, Grégory Cohen off avec...
Deux F.
Et dans un instant, la chronique sexe de Maya Mazorette. Je sais que c'est nul.
C'est discret.
On écoute Clara Luciani, respire encore. Clara Luciani, respire encore.
Grand bien vous fasse. Ali Rebbi. sur France Inter.
Et c'est l'heure de la chronique sexe de Maria Mazorette. Dans le monde du sexe, la couleur est aussi une question.
Oui, et notamment la couleur de peau. Vaste sujet d'actualité puisque les statistiques annuelles concernant la consommation de pornographie sont tombées. Et comme chaque année, c'est l'occasion de se rendre compte des tendances dans les imaginaires. Qu'est-ce que les gens recherchent? Qu'est-ce qui excite les gens quand personne ne les regarde? Et ben justement, c'est en partie une question de couleur. Sur les 30 mots les plus tapés en 2021, 9 sont liés à la couleur de peau, donc une recherche sur 3. Et là-dedans, on va retrouver des mots comme japonaise, latino, black, asiatique, etc. Mais là où ça devient encore plus intéressant, c'est quand on regarde quel pays recherche quelle couleur de peau. Les États-Unis et l'Afrique noire se retrouvent autour du mot-clé ebony, donc ébène en français, la couleur noire. Tandis qu'en Asie du Sud-Est, on cherche des contenus japonais et qu'en Inde, on cherche du porno indien. Bref, en pornographie, nous recherchons souvent ce qui nous ressemble, la fille d'à côté ou bien le plombier d'à côté.
Et nous, en France, que recherche-t-on ?
Bah, c'est un peu compliqué parce que comme catégorie, en France, on recherche en premier lieu des lesbiennes.
Deux femmes qui se tiennent la main. Ça n'a rien qui peut gêner la morale.
Et cette appétence nous fait rejoindre le plus gros bloc pornographique du monde qu'on pourrait ranger sous la bannière de l'Occident progressiste. Là-dedans, vous mettez l'Europe de l'Ouest, le monde méditerranéen, le Canada et l'Australie, tous réunis autour du porno lesbien, avec généralement des contenus assez soft. En revanche, si vous filez en Europe de l'Est, à peine 2 heures en EasyJet, la catégorie la plus populaire est celle des MILF. Pour rappel, les MILF, ce sont les femmes matures, potentiellement mères de famille, généralement jouées par des actrices de plus de 28 ans. Car oui, dans le porno, c'est comme chez les animaux de compagnie, on vieillit plus vite.
Donc, dans le bloc français, on ne cherche pas particulièrement des couleurs de peau.
Et en fait, si. Mais le monde de la pornographie est tellement pensé par et pour des personnes blanches que par défaut, il n'y a pas besoin de le préciser. Si vous regardez le top des hardeuses les plus demandées en 2021, vous verrez qu'elles sont presque toutes
hardeuses,
blanches.
Hein, c'est les
c'est
comédiennes.
C'est les performeuses, c'est les pornstars.
Voilà.
Par ailleurs, si vous regardez le détail des recherches françaises, vous aurez la confirmation qu'elles sont hyper chauvines. Sur les 10 mots les plus couramment tapés, 4 tournent autour de l'idée de la femme française et même de la lesbienne française. Une recherche qui a augmenté de 236% depuis l'an dernier. Et ceci en sachant que les années précédentes, on était plutôt obsédé par les beurettes, donc c'était encore une histoire de couleur de peau. On peut même parler de fétichisation raciale. Cette tendance n'est pas particulière à la France, elle est ultra majoritaire dans le monde, avec cependant 2 exceptions. Tout d'abord, le curieux groupe Russie-Brésil, où on recherche du hentai, donc des dessins animés japonais, des contenus de fiction, mais présentant parfois des pratiques très dures, à l'image peut-être des régimes de ces pays. Et enfin, le dernier bloc, c'est celui qui regroupe la majorité des pays du Moyen-Orient, où on recherche en priorité du sexe par derrière. Alors là, c'est un grand classique, vous interdisez une pratique dans les faits, vous la voyez ressortir direct sur Internet.
Et qu'est-ce qu'on apprend d'autre dans cette enquête, Maya ?
On apprend que le monde entier consomme beaucoup, beaucoup de porno, toujours plus, et pas seulement les hommes, les femmes aussi, qui constituent un tiers de la consommation mondiale. C'est une part qui augmente, il y a encore 5 ans, c'était seulement un quart de la consommation mondiale. Et puisqu'on parle de femmes qui sont avant tout la chair à partir de laquelle se construit le porno grand public, je ne saurais trop recommander l'énorme enquête publiée pendant les vacances par le journal Le Monde, une enquête consacrée aux pratiques de recrutement, de tournage et de chantage de certains sites français. C'est tellement révoltant que ça peut être vraiment difficile à lire. Mais le porno est un média grand public, donc il est important que le public sache ce qu'il regarde. Là, il ne s'agit pas de dire que toutes les productions pornographiques sont dégoûtantes, au mieux criminelles, au pire. Je dis juste que sur les grosses plateformes, vous ne savez pas et vous ne pouvez pas savoir ce que vous consommez. En revanche, il existe du porno éthique qu'on peut trouver en tapant « porno éthique » sur Google, donc pas très compliqué. Ce porno éthique se fait généralement un point d'honneur à être inclusif, y compris au niveau de la couleur de peau. Un porno moins raciste, un porno moins brutal, ça se trouve même très facilement. En revanche, il faut le payer. Mais quand on cherche à être éthique, c'est normal de payer pour ses loisirs.
Et je confirme, enquête très édifiante,
oui,
publiée dans Le Monde. Merci beaucoup Maya, une chronique à podcaster sur l'appli et sur le site de France Inter. Merci beaucoup Jean-Gabriel Cosse d'être venu ce matin. L'étonnant pouvoir des couleurs, c'est publié en poche et j'ai lu. Merci Catel Le Pouliquen. Le tout nouveau Marie-Claire, plein de couleurs avec des pages de cuisine chromatique absolument gourmande, est à lire ce mois-ci. Demain, j'aurai le plaisir à 9h30 sur France 2 de vous retrouver dans l'émission Bel et Bien avec Agathe Le Caron, Christophe André et André Manoukian. Lundi, on s'intéresse aux méfaits du bruit sur notre santé et aux bienfaits du silence sur notre cerveau. Vous pouvez d'ores et déjà nous laisser vos questions et vos témoignages sur l'appli France Inter.